Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h05, vous écoutez les grandes gueules du sport. Olivier Giraud, Alison Pinot, Sarah Pitkowski, Simon Dutin, ce matin. Si vous vous réveillez seulement maintenant, bah déjà vous avez de la chance, mais vous pouvez aussi retrouver le podcast dès maintenant sur l'appli RMC. On a parlé évidemment de la défaite de l'équipe de France, de l'élimination en quart de finale de l'Euro féminin. Dans 30 minutes, le dossier des GG pour faire le bilan de la tournée du 15 de France en Nouvelle-Zélande. 3 défaites, mais est-ce que c'est quand même une réussite? On viendra d'ailleurs sur l'élimination des Bleus à 11h45. Avec cette séance de tir au but maudite pour l'équipe de France. Est-ce que c'est un mal français? Et puis d'ailleurs, petite info pour tous les fans de foot qui nous écoutent ce matin, un accord total a été trouvé entre Francfort et Liverpool pour le transfert de l'attaquant français Hugo Ekitike, 95 millions avec bonus pour un contrat de 6 ans. Je vois réagir Olivier Giraud, des sommes qui le font réagir. 95 millions évidemment, c'est pas mal. Des infos mercatoires trouvées, vous le savez, tout l'été sur rmcsport.fr. Mais d'abord, c'était il y a presque un an. Et comme vous êtes en manque, petit cadeau.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Les services qui est de c'est... Félix. Et oui, Félix, voilà, oui, pour l'équipe de France. Et donc, médaille de bronze pour le ping français. C'est la deuxième médaille de bronze. Merci à Félix Lebrun, 17 ans seulement. Et c'est lui qui porte cette équipe de France.
Trop vite, Léon Bastien revient. Léon Bastien revient à 15 mètres maintenant. Mila qui est devant. Il va passer devant, il va le faire, Léon Bastien, champion olympique, c'est un 100 mètres par million, la deuxième tique.
Il reste 26 secondes, Jean-Louis, si ça ne marque pas, ça va en golden score. Teddy est placé, on est en bordure, Kim Min-jong qui essaye de se sortir.
C'est bon,
ah, ça nous avait manqué. Hein. Ah, on aime bien cette musique quand même. Hein. Vous voulez pas revenir en 2024
hein? Ça, c'est un super héritage, ça. Hein?
Ça, c'est... Ouais, bah, ouais.
C'est un super héritage. Je pense que à chaque fois qu'on aura cette musique, on aura les ouais, frissons et les émotions et on aura chacun une image qui nous reviendra.
Ça nous fait sourire, vous voyez, sur ce plateau.
La force du son et de l'image.
Vous l'avez entendu aussi dans cette production, Léna Marjac. Elle est avec nous, Léna. Elle a commenté le ping. Ça va, Léna?
Salut, François. Ça va,
tu choisis ton sport.
Forcément.
Évidemment. Léna, dans un instant, on va développer un peu tout ça et tu vas nous donner toutes les infos autour de ce qui a été annoncé, notamment par François Bayrou dans son plan de budget 2026. Une baisse à nouveau pour le budget des missions jeunesse et sport. Ça a fait bondir, d'ailleurs, le Comité national olympique et sportif français. Et puis, il y a d'autres annonces comme la suppression du passeport pour une certaine catégorie d'âge. D'où cette question cette semaine, les GG. Est-ce que l'héritage des Jeux est déjà enterré? Oui ou non? Sarah Pitkowski.
Bah, je crois bien.
Simon Dutin.
Non.
Alison Pinot.
Non, mais.
Ah, Olivier Giraud.
Oui, mais.
Moi, je mets pas de
meilleur. Il y a de la nuance. Donc Léna, avec les Jeux Olympiques il y a presque un an, la France devait devenir une nation sportive. En tout cas, c'est ce qui était dit à l'époque.
Oui, et d'ailleurs, écoutez ces mots prononcés. C'était le 12 août 2024, au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques.
Et puis il y a quelque chose de plus immatériel qui restera dans l'héritage. Évidemment, ce qu'on a fait à l'école, la France nation sportive, je veux que ça reste et on y reviendra.
Vous l'avez reconnu, un des propos tenus par Emmanuel Macron devant l'ensemble des acteurs de ces Jeux. Et le président avait même ajouté quelques jours plus tard, je ne compte pas baisser le niveau d'engagement, ni pour les équipements, ni pour le sport à l'école, et ni budgétaire. Pourtant, début d'année 2025, baisse du budget du sport, une première coupe de 141 millions d'euros. Alors c'était une somme exceptionnelle allouée au ministère pour les Jeux. Maintenant qu'ils sont terminés, on la retire. Mais il a bien eu une baisse réelle sur l'année 2025 à hauteur de 47 millions d'euros. Et puis cette semaine, nouvelle annonce qui a fait grincer des dents, 18%, enfin presque 18% de baisse pour l'émission Jeunesse et Sport dans le cadre du projet de loi de finances 2026 du Premier ministre François Bayrou. Une décision incompréhensible, injuste et dangereuse, dénonce dans un communiqué de presse le Comité national olympique sportif et français. Nous ne pouvons pas laisser le monde du sport être une telle variable d'ajustement budgétaire, a fortiori quelques mois après qu'il ait porté si haut les couleurs du pays lors des Jeux. Et hier soir, justement sur nos antennes, la ministre des Sport Marie Barsac espère voir ce pourcentage donc de 18 diminuer.
Effectivement, nous sommes dans une période certes compliquée d'un point de vue budgétaire, mais pour autant, il faut aussi entendre l'envie de sport des Français. Et donc, on doit poursuivre la dynamique qui a été enclenchée par les Jeux de Paris 2024 pour continuer à devenir cette nation très sportive qu'on attend de nos voeux. Donc, je crois qu'il faut continuer à discuter autour du budget pour trouver le bon équilibre dont a besoin le sport et la jeunesse également.
Et en plus de tout cela, le ministère des Sports a dû couper dans ses caisses pour la rentrée 2025. Le passeport, qui est une aide financière à l'inscription en club pour les familles modestes, sera seulement ouvert aux plus de 14 ans pour l'année scolaire qui arrive, donc dès septembre 2025, et non plus dès 6 ans jusqu'alors.
Merci beaucoup Léna. Alors tu restes avec nous parce que tu as travaillé ce dossier, donc si jamais tu as besoin d'intervenir, n'hésite pas dans ce débat. Donc je vous rappelle, est-ce que l'héritage des Jeux est déjà enterré? Il n'y avait pas de nuance, Sarah, pour toi, c'est un oui. Un grand oui.
Oui, parce qu'en fait, l'héritage, je le mets sur des choses concrètes et pas sur des actions de communication comme des journées olympiques, des journées du sport qu'on te colle partout, de je te remets la flamme. Pour moi, ça, c'est pas un héritage des Jeux, c'est de la communication pour dire que les Jeux ont bien lieu à Paris, comme les très jolies statues des plus grandes femmes marquantes qui sont installées à Montreuil. Très bien, mais moi je place pas l'héritage des Jeux Olympiques à ce niveau-là. Je le place sur le fait de se dire est-ce qu'on peut faire du sport? Est-ce que le sport est accessible à tous? Est-ce qu'on a des structures pour accueillir quand on a des médaillés olympiques dans des sports et que tout le monde se précipite sur ce sport parce qu'on a envie de faire du ping, parce qu'on a envie de faire de la natation, ou à un moment quand on a envie de faire du judo, du hand, et que n'importe quel enfant ou une famille qui se dit bah tiens, j'ai vu un tel à la télé, j'ai envie d'aller m'inscrire, on me dit bah non, il y a pas de place parce que le gymnase, bah non, on fait du ping-pong que de 17 à 20 heures et après on peut plus. Oui, mais c'est ça les structures, c'est d'être capable d'accueillir les gens qui veulent faire du sport. Et là on a une problématique. On a eu des investissements très important avant, pas parce qu'il fallait montrer qu'on était une nation de sport. Et en fait, finalement, dès que les Jeux sont finis, on revient à ce qu'on était avant, même moins, puisqu'on a des réductions budgétaires. On nous a dit qu'il y a eu un excédent de 27 millions d'euros de ces Jeux Olympiques. C'est 27 millions d'euros, déjà, la première chose. Normalement, de ce que j'ai lu, 60% de cette somme doit être reversée au CNOSF. Est-ce que ces 60% de ces 27 millions vont être versés au CNOSF?
Affaire à suivre,
c'est-à-dire entre les annonces et la réalité, il y a toujours un décalage. Donc c'est ça moi qui me gêne. Et beaucoup d'athlètes aujourd'hui disent, on a un peu, et c'est vrai, et c'était très bien, on a mis le couteau sous la gorge d'entreprises privées en disant, il faut que vous créiez vos teams d'athlètes, il faut les soutenir. Mais il y a des médaillés qui, dès qu'ils ont eu leur médaille, ces entreprises privées, elles ne se sont pas engagées jusqu'en 2028 pour qu'ils puissent continuer à faire leur sport. Donc, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais ouais. Aujourd'hui, on est revenu à ce qu'on était avant. Et on arrête de dire qu'on est un pays de sport. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. On n'est pas capable de le faire.
Simon, Alison, vous faites partie de la team non quand même. Donc vous voyez quand même qu'il y a eu un héritage, c'est ça? Ou Alison?
Non, je dirais. Alors, je le vois pas comme ça de ma part, c'est-à-dire un héritage.
Ça a changé là, attention.
Non,
Alison,
je reste.
Alors.
Non, je reste sur ma position. Ce que je veux dire par là, c'est que l'héritage, c'est sur plusieurs années. Je te rejoins, Sarah, sur le fait que, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment concret. Tout ce qu'on voit, c'est des coupes. On va pas se mentir, c'est la traversée du désert quand même pour beaucoup d'athlètes depuis que les Jeux sont terminés. C'est très difficile. Je pense que on va pas parler de descente aux enfers, mais la chute libre quand même est assez, c'est assez abyssal, je dirais. Mais moi, j'estime que c'est dans le temps qu'on va voir cet héritage. Pour l'instant, la coupe budgétaire, je crois que c'est, on est le deuxième ministère avec la plus grosse coupe, donc c'est 18%.
Ouais. Avec le petit budget aussi.
Oui, comme d'habitude, ça change pas. Et moi, ce qui me dérange, c'est surtout le fait de dire qu'on veut être une nation sportive et que finalement, quand les athlètes disent on n'est pas une nation sportive, les gens, ils sont choqués, ils sont surpris, ils disent c'est pas vrai. Les succès de la France, on la doit à sa diversité. Il faut pas l'oublier, ça. L'héritage, il est là. On a souvent parlé. Moi, je pense que ça va venir
dans plusieurs années. Ça veut dire qu'il y aura peut-être, ça aura créé des vocations. C'est ça que tu veux dire?
Mais donc on sacrifie non, je pense aujourd'hui que... alors. C'est parce que l'héritage, il doit pouvoir se mesurer dans une forme d'immédiateté. Ceux qui ont porté, ceux qui ont été aux Jeux, ceux qui ont ramené des médailles, ceux qui ont finalement rempli des sports ou donné un élan sur des sports. Donc, comme il faut attendre du temps, ceux-là, ils vont être sacrifiés parce qu'il faut attendre qu'on retrouve un équilibre budgétaire.
Enfin, mais du coup, l'héritage, ça se situe que sur le plan sportif, que sur les clubs, que sur sur nos médailles. Mais non, mais c'est une question, c'est une vraie question. Parce que l'héritage, ça englobe plusieurs choses.
Oui, mais l'héritage, il y a aussi les structures. Il y a eu des aides pour des structures qui doivent être faites dans des zones prioritaires. C'est-à-dire qu'il y a eu des aides pour des communes, pour des sports. Mais on a tout arrêté en fait.
Ouais,
pour
je pense
faire
que...
du sport, il faut. On peut aller courir, hein. Il faut une paire de baskets, mais on fait pas que
je
ça.
Je pense que l'instabilité politique joue aussi un rôle énorme dans tout ce qui se passe en France et surtout le sport où on est toujours le plus petit budget de toute manière de tous les ministères, hein, qu'on se le montre pas. Et puis à chaque fois qu'il y a des coupes à faire, c'est toujours pour le sport.
On précise quelque chose juste avant de poursuivre le débat, mais Léna, sur le passeport, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut marquer les esprits. Le fait de ne plus permettre aux jeunes de 6 à 13 ans d'avoir cette aide financière pour intégrer un club. On est bien d'accord que c'est le ministère qui a choisi de couper là-dedans en fait.
Oui, c'est ça. C'est voilà. On a demandé du coup au ministère de faire
À tous les ministères en fait de faire attention, c'est ça.
Voilà, exactement. Et donc il fallait trouver une coupe rapide pour justement faire des économies. Et donc ils ont décidé de taper entre guillemets dans le passeport parce que c'est quelque chose qui commence en septembre 2025. Et l'idée étant de le remettre dès 6 ans à partir de septembre 2026. Donc c'est une coupe inédite
c'est
et ponctuelle.
Mais
on fait que ça. À chaque fois on supprime pour remettre.
Voilà. Ouais, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps comme ça qu'on va remettre. Quand t'as coupé,
On précise quand même que l'aide de 50 euros, elle passe à 70 euros et que l'accent, il y a un vrai choix, un vrai arbitrage que je trouve qui peut participer d'une certaine forme de courage. Madame la ministre, hier, le disait sur notre antenne. Je lui ai dit, bon, c'est plus important en fait de faire du sport à l'adolescence que lorsqu'on est enfant. Et plutôt que de botter en touche, elle a dit, à 13 ans, on s'est rendu compte que c'est fondamental. Voilà. Elle dit pas que c'est pas important lorsqu'on est enfant, mais il y a quand même, je trouve, derrière ça,
donc à 6 ans, c'est moins fondamental.
Une forme de courage, au moins de l'admettre. On peut en débattre. Encore une fois, quand on parle d'héritage, de quoi parle-t-on? Est-ce que on a voulu se faire croire qu'on allait aller bosser en aviron, faire ses courses à cheval et aller chercher son steak au tir à l'arc? Excuse-moi. Pourquoi pas? Mais je veux dire, bon, c'est de la science-fiction. Encore une fois, quand on parle d'héritage, de quoi parle-t-on? Mais Sarah le disait avec à peine de l'ironie. Ce générique, cette musique, elle ravive des souvenirs, elle fait dresser les poils. L'héritage, il n'est pas seulement pour nous Français. L'héritage, il est exactement immatériel, tout aussi important, je pense, à ce titre-là. Et il est mondial. Je veux dire, la trace que vont laisser ces Jeux Olympiques, encore une fois, au nom de ce proverbial univers. Mais au nom du proverbial universalisme du sport, tu sais que moi j'ai beaucoup combattu ce narratif en disant que les Jeux c'était quand même devenu du business. Je suis le premier à avoir retourné ma veste parce que ces Jeux ils m'ont vraiment retourné et ils laissent encore une fois une trace qui ne vous en déplaise. Vous êtes des sportifs de haut niveau, je comprends que ces aspects financiers soient importants.
Oui, mais on a des enfants qui font du sport.
Mais malgré tout, regardez-moi.
Finalement, comme n'importe quel enfant qui fait du sport.
Mais oui, mais moi, ma compagne, elle a fait des pieds et des mains pour inscrire son fils au ping-pong. Et on lui a dit, écoutez, le ping-pong, on a des milliers de demandes par rapport à il y a encore un an. J'en parlais avec Léna avant ce débat. Je parle sous ton contrôle, Léna, c'est plus de 20% d'augmentation.
23% d'augmentation.
RMC fait un carnage sur les réseaux sociaux en diffusant le ping grâce à des phares comme les frères Lebrun, mais pas seulement.
Mais, ce qui est important, c'est de pouvoir aller jouer
au ping. Justement, Sarah, tu disais, alors c'est ouvert que de 17 à 21h, mais parce que ça n'intéressait personne. Et désormais, il n'est pas interdit de penser que.
Parce que ton gymnase, tu dois le partager avec le basket, avec le hand, avec le bad, avec le ping.
Donc tu peux pas. La hausse de fréquentation. Alors même si c'est pas encore, effectif, parce que il y a un temps d'inertie, le temps que les choses produisent leurs effets, leurs conséquences, mais il n'est pas interdit de penser que le nombre. l'augmentation exponentielle des demandes d'inscription va pousser les municipalités à consacrer plus de crédits, justement, à ouvrir d'autres salles.
Mais non, puisqu'on est en train de baisser, on est en train de baisser les budgets des communes. Toutes les régions aujourd'hui se la région des Pays de Loire enlève les subventions pour le Vendée Globe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande même aux régions de couper des budgets. Donc, eux qui investissaient dans le sport, c'est terminé.
Elles sont encore là. Elles sont encore là.
Non, je peux te dire que dans ma région, ils ont tout coupé. Donc, en fait, la course cycliste du coin, le match de basket du coin, le petit tournoi de tennis de jeunes du coin, ils auront plus de subventions.
Oui, mais qui a cru que tout aussi réussi qu'ils aient pu être, les Jeux Olympiques allaient changer ça. Il y avait déjà une guerre en Europe. On a des stocks d'armement à reconstituer.
C'est lui qui l'a dit.
On a un chantier qui est fondamental, c'est celui de l'éducation. Il faut réapprendre, mais redonner l'envie aux gens d'apprendre, d'écrire, de lire. Il y a malgré tout il y a la recherche à entretenir. Malheureusement, vous savez que je suis un amoureux sport, mais malheureusement, on est confronté à un principe de réalité qu'il faut savoir entendre.
Mais on peut être aussi pragmatique. On a trois entités. On a un ministère des sports, on a un CNO et on est un ANS. Déjà, on ne sait pas ce que chacun fait des trois.
Mais là, je rejoins tout à fait.
Tu vois, on pourrait trouver les moyens de recentrer,
de rationaliser un peu.
De rationaliser, de recentrer le sport.
Il est en train de bouillir, Olivier Giraud.
Non, mais je vous entends. On est en train de se battre sur quelque chose alors qu'il faut parler directement de ce qui est important. C'est-à-dire que la France est une nation sportive. C'est-à-dire que les gens ont envie de faire du sport.
Ah, oui.
Non, c'est une nation sportive. Ouais. Par contre, on est le pays peut-être le plus nul dans la politique sportive. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence et tu le vois très rapidement avec les budgets. C'est-à-dire que l'héritage... Il a parlé d'une chose, le président de la République, c'est d'héritage immatériel. Ça veut dire quoi, héritage immatériel ? C'est-à-dire qu'on parle de nos enfants. Tu parles, le passeport, c'est le plus important à 13 ans. C'est-à-dire que si t'as pas fait de mathématiques à 5 ans, tu sais, en primaire, tu penses que c'est à 14 ans que tu vas devenir bon en mathématiques parce qu'on va te mettre des cours? Non, au contraire, si tu veux donner envie à des enfants de découvrir le sport, c'est au plus jeune âge, c'est dès le début. C'est dès le début. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation du millefeuille sportif qui est incompréhensible pour tout le monde. On est en train de confondre les collectivités territoriales avec le ministère des Sports, le ministère des Sports qui n'existe pas, même avec tout son bon vouloir. Et la preuve en est, c'est que tu sors des Jeux, c'est le premier endroit où on coupe, alors qu'il n'y a déjà pas grand-chose. Par contre, tu parles de l'éducation. Je veux pas qu'on mélange tout. J'ai passé 3 ans au ministère de l'Éducation. Il y a des profs qui font le travail sur le terrain. Et la seule fédération qui a augmenté son nombre de licenciés, qui vient de battre son record, avec 1 200 000 gamins qui font du sport et qui font tous les sports, et ben c'est dans ce ministère-là. Et dans ce ministère-là, c'est un ministère avec 36 millions d'euros, il tourne, pour faire des gamins tous les sports du monde. Et ben ce ministère-là, ben il faut que tu te battes pour avoir 4 millions de la part de l'éducation nationale et de garder tes 4 millions. Et quand tu gardes tes 4 millions, c'est des combats qu'il faut y avoir. Il faut que vous regardiez les combats qu'il y a au comité olympique, dans le conseil d'administration, sur l'héritage immatériel, sur nos enfants, sur qu'est-ce qu'on fait demain. Et ce débat-là, il n'a jamais eu lieu. Et la preuve que si tu ne le fais pas en amont, il est déjà trop tard. Les Jeux sont passés. Et aujourd'hui, on est en train de voir le résultat catastrophique de ce qui va se passer pour le sport. C'est-à-dire que si un État ne prend pas son sport en main, parce que les collectivités territoriales, elles le font, elles sont en train de baisser les mairies, elles se posent la question comment on va remplir les salles, parce que les gamins, ils veulent y aller faire du sport. Mais sauf qu'au bout d'un moment, tes salles, elles sont pleines, il faut que tu fasses des choix dans les enfants que t'accueilles. Le moment où tu dois faire le choix entre un enfant et un autre pour qu'il fasse du sport chez toi, c'est que là que t'as un vrai problème qui va au-delà du sport. Tu vas sur un problème social. Le sport pour tous. Comment on fait pour que chaque gamin ait les mêmes choses en même temps? Parce que quand tu parles du passeport, il faut en parler de manière beaucoup plus ouverte. Bien sûr que c'est un plan national. Mais sauf qu'il y a des collectivités comme celle de l'Hérault, de Montpellier par exemple, là-bas, il y a une aide pour tous les enfants, pour qu'ils puissent s'inscrire. Et après, tu vas aller dans des départements, tu vas aller à Sedan, où il y a zéro argent dans cette collectivité. Donc on est tous inégaux là-dedans. Et en fait, ce qu'il faudrait construire, il faudrait qu'il y ait une construction politique. Mais pour qu'il y ait une construction politique, il faudrait qu'un jour, le sport arrête d'être l'endroit où n'importe qui peut s'asseoir à la tête du ministère des Sports, le maire de Châteauroux ou n'importe qui. C'est qu'à un moment, il va falloir que les sportifs s'emparent de leur sport. C'est-à-dire que quand tu prends le ministère des Finances, C'est quelqu'un qui en connaît quelque chose aux finances qui se met à la tête. C'est pas quelqu'un qui fait des
grandes annonces.
Après, le choix
de Marie Darsac, quand même, c'était, elle était justement.
Elle a travaillé à la fédération.
Pour les Jeux Olympiques. Elle était liée à l'héritage, c'était son rôle.
Je vais te dire un truc. Le choix, si demain on te fait une proposition d'être ministre des Sports, et alors qu'on te dit, avant de le prendre, que tu vas devoir défendre un budget qui est indéfendable, si tu y vas, tu y vas. C'est ton problème.
Ah oui, tu assumes derrière.
Non, c'est indéfendable. Se dire que là, aujourd'hui, si on te propose un ministère où tu vas devoir annoncer aux gens que tu vas leur enlever tout ce qui leur ont fait plaisir, je suis désolé, celui-là, tu ne dois pas l'accepter.
Ouais.
Se dire qu'après, défendre, avoir les mots pour défendre, oui, on va essayer. Non, on n'essaye pas, c'est du pragmatisme. Le sport, c'est du pragmatisme. Et aujourd'hui, nous sommes défaillants. Et quand tu vois comment le sport est en train d'être utilisé internationalement, les débats que nous avons aujourd'hui sont hors du temps parce que nous commençons à être dépassés par ce que le sport va devenir dans les années à venir. Et nous avions un modèle français à défendre. Ce modèle qui fait que n'importe qui peut prendre une licence n'importe où. Il n'y a que chez nous que ça existe. Ce modèle-là, on est en train de le détruire nous-mêmes, le détricoter nous-mêmes. Tout simplement.
Alors, effectivement, sur cette histoire du passeport qui est quelque chose qui a marqué, il faut préciser que ce sont des maires aussi qui se mobilisent. Il n'y a pas que des sportifs. On a entendu la mobilisation des sportifs au moment d'une première coupe budgétaire, et ça, c'est important que les sportifs de haut niveau montent au créneau. Là, ce sont les maires qui ont demandé, en adressant une lettre au Premier ministre et au Président de la République, de revoir justement cette politique autour du passeport.
Alors, les maires sont très puissants. Parce qu'en fait, ils sont à la base. Et en fait, quand tu veux défendre, quand tu veux défendre un budget, en fait, il faut regarder un truc que personne ne regarde dans le sport parce qu'on n'en a pas l'habitude. Il faut défendre les temps politiques. Et le temps politique, le premier temps politique, c'est le temps des maires.
Ouais.
Et les maires, en fait, on va avoir un très gros appui sur ceux qui vont vouloir se présenter demain. Et c'est comme l'héritage, ça se travaille en amont. Pas une fois que la fête est finie.
Vous savez quoi, on va reparler des Jeux Olympiques la semaine prochaine dans les GG, puisqu'on sera vraiment à un an du début des Jeux. Tu viens quand tu veux, la porte est ouverte, tu le sais Olivier, bien sûr. Léna, merci beaucoup.
Merci.
Léna, elle est encore sur son petit nuage, les frères Lebrun, elle va partout. Léna, l'héritage des Jeux, elle l'a vu.
Avec les frères Lebrun, c'est sûr.
C'est énorme.
Et grâce à eux, elle va partout dans le monde, là, elle les suit partout.
Et Léna, je vais te dire une chose, on parlait des sportifs tout à l'heure, les frères Lebrun, ils sont exceptionnels.
Ah bah oui,
ça veut dire que,
d'accord.
Tu vois, il y a plein de choses dont on n'entend pas parler, mais par exemple, pour les gamins à l'école, ils font des vidéos, dès que tu leur demandes une vidéo, ils te l'envoient et tout, ils sont géniaux.
Ça, c'est important. Merci les sportifs. On revient dans un instant avec un dossier dans les grandes gueules du sport. On va faire le bilan de la tournée du 15 de France en Nouvelle-Zélande. 3 défaites, certes, mais il y en a peut-être qui pensent que c'est quand même une réussite. On en parle dans un instant sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet,
Alison Pinot, Olivier Giraud, Sarah Pitkowski, Simon Dutin ce matin dans les grandes gueules du sport. Avec dans 15 minutes, on reviendra sur la déception après l'élimination de l'équipe de France en quart de finale de l'Euro. Notre débat sur les tirs au but. Vous êtes en direct, mesdames. Alors Alison est en train de manger. C'est bien Alison, mais faut pense à couper le micro quand tu parles aux autres. Bon bref, on va revenir sur les tirs au but. C'est pas grave Alison, t'inquiète pas. Est-ce que c'est un mal français puisqu'on a encore échoué sur ces tirs au but? Mais d'abord on va ouvrir un dossier. Le dossier des GG, c'est parti.
RMC, le dossier des GG.
Défaite 29-19, les Bleus ont fait une première mi-temps de rêve. Ils menaient 10-0, puis 19-17 à la pause. Et finalement, pas de points inscrits en deuxième mi-temps. Ils ont trop subi. Les Blacks ont tué le suspense à 4 minutes de la fin en marquant un dernier essai. 3 défaites de suite, c'est une première pour le sélectionneur Fabien Galthié dans son mandat. On restait sur 3 victoires face aux Blacks. 3 défaites désormais sur le sol néo-zélandais. Mais tout n'est pas acheté.
Et oui, on l'a vécu hier, cette nouvelle défaite de l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. C'était hier en direct dans les GG. Il n'y aura pas eu de victoire. Après donc la défaite 31-27 à Dunedin il y a 2 semaines, une défaite plus lourde 43-17. Les Bleus ont perdu hier 29-19. Mais malgré ces 3 défaites, les GG, est-ce que cette tournée est quand même une réussite? Sarah Pitkowski.
Alors, pour la première fois depuis ce matin, je vais prendre le verre à moitié plein. Je vais dire partiellement réussi. Je suis allée au charbon pendant toute l'émission.
Un mouille alors. Simon Dutin.
Oui.
Olivier Giraud.
Non.
Alison Pinot.
Je dirais non, ça dépend sur quel angle tu le prends.
D'accord, il y a beaucoup de nuances là, hein, j'ai l'impression, sur ce débat. Bah, avant de vous entendre, Romain Asselin est avec nous. Salut Romain.
Salut François, salut les grandes gueules.
Salut Romain.
Tu as commenté la défaite des Bleus hier après un match très courageux. À la fin de la rencontre, qu'est-ce qui dominait? Plutôt la fierté ou les regrets?
De la fierté plus que des regrets, clairement. Alors certes, il y a la déception d'être passé pas si loin d'une première victoire sur le sol néo-zélandais depuis 2009. On pense notamment à cette balle de match lors du premier test, à cette première mi-temps presque parfaite hier. La France menait hein, d'ailleurs jusqu'à l'heure de jeu. Mais les Bleus de Gaël Ficou, ils ont de quoi bomber le torse. Capitaine Ficou, 96 sélections au compteur, 4e joueur le plus capé de l'histoire du 15 de France. C'est donc de loin, de très loin même, le papa d'un groupe inexpérimenté. Sa première réaction au micro du diffuseur Canal+, hier, juste après le match sur la pelouse du FMG Stadium.
On leur a donné du fil à retordre, c'est assez frustrant, mais l'état d'esprit après il a été exceptionnel ce soir. Comme j'ai dit aux gars à la fin du match, on a peut-être perdu, mais l'état d'esprit il était énorme, on n'était pas loin, donc il faut garder quand même du positif. Et avec une équipe assez novice, beaucoup de nouveaux joueurs, très peu d'expérience, on arrive à accrocher deux fois les All Blacks, et la semaine dernière en deuxième mi-temps on fait un 14-14. Je pense qu'il y a des bonnes choses, il n'y a pas tout à jeter.
Surtout quand on regarde dans le rétroviseur, il y a trois semaines, souvenez-vous les GG. L'enfer, il était promis à ces Bleus, amputés des joueurs dits premium, restés en France, en Nouvelle-Zélande. On a même entendu que le 15 de France manquait de respect aux Blacks. D'où ce bilan mais positif, tiré par Fabien Galthié hier, un sélectionneur fier de la réponse de son groupe remanié.
Les joueurs y ont cru, se sont engagés dans le projet. C'est vrai que le pari semblait impossible, mais ils voulaient le réaliser, ils voulaient en être en tout cas. Nous, on avait présenté le projet comme un challenge à vivre ensemble déjà. Venir au pays des All Blacks et les défier trois fois sur leur terrain pour une équipe, c'est vrai, c'est une équipe qui a très très peu d'expérience, des joueurs qui découvrent ce niveau-là. Il y avait tout à gagner.
Alors oui, c'est un fait. Première fois depuis le début de son mandat en 2020 que le 15 de France de Galthié perd trois matchs de suite. Mais il a aussi gagné quelque part, le sélectionneur. Gagné des gars sûrs. Théo Attissogbé, par exemple, derrière. Michael Guillard devant. Deux des grands bonhommes de cette tournée. Guillard, meilleur français du match hier. Symbole d'un groupe qui a marqué des points.
On peut être fier du groupe, fier des joueurs qui ont joué ces trois tests. Voilà, j'espère qu'on a bien représenté la France ici en Nouvelle-Zélande. Même si, voilà, mathématiquement, c'est une série avec trois défaites. Donc, voilà, j'espère que tout le monde a pris du plaisir en nous regardant. Nous, on a pris un max de plaisir en jouant et on a essayé de porter fièrement ce maillot.
Prochain rendez-vous pour les Bleus, ce sera la tournée d'automne en novembre, avec notamment la réception de l'Afrique du Sud, double championne du monde en titre, et avec les cadres, cette fois.
Merci beaucoup, Romain, et à très bientôt sur RMC. Alors, malgré ces trois défaites, est-ce que cette tournée est quand même une réussite? On a entendu, évidemment, Romain citer quelques joueurs, 32-16, hein, pour nous rejoindre. Pour toi, Simon, c'est quand même un oui.
Oui, parce que sauf à considérer qu'il faut supprimer ces tournées d'été, qui se jouent d'ailleurs en hiver, hein, puisque oui. On joue dans l'hiver austral, et puis c'est la même chose lorsqu'ils viennent eux en Europe à l'automne. Bah, il faut trouver des motifs de satisfaction, des motifs de, je sais pas, des choses qui vont te permettre de progresser. Romain vient de le rappeler, ça, il y a toujours un ou deux noms qui émergent, des têtes qui dépassent un petit peu. Guillard, Attissogbé, ouais. Tu te dis que ça peut servir au 15 premium, comme le dit Fabien Galthié. Il y a pas eu quand même, bon,
Wellington. Après, il y a peut-être pas besoin.
La défaite de Wellington, le deuxième match, on prend un gros écart, mais je veux dire, on n'a pas pris la raclée qu'on s'attendait éventuellement à prendre
au moins sur un. Il y a quand même
un gros écart, mais c'est pas
le pire écart de l'ère Galthié.
Oui, d'accord, mais c'est encore une fois, on y va avec le 15 de France B voire C. Hier, on passe pas loin de la victoire. Il y a quand même des enseignements à tirer d'une défense héroïque quand même face à des Blacks. Alors qui sont plus les All Blacks, aussi sont dans un creux générationnel, mais. Je pense qu'il y aura quand même des enseignements à tirer. Guillard, Attissogbé, Le Garec, Barré, qui peuvent incarner des promesses pour le futur. Pas interdit de penser que justement le comportement assez valeureux, voire héroïque par certains moments de ces joueurs va titiller un petit peu les stars qui sont restés à la maison et qui vont se dire bon, finalement, il n'y a pas tant d'écart que ça. Ma place, elle n'est pas si garantie que ça. Bon, voilà, un petit peu de méthode Coué. J'ai envie d'y croire.
Je sais pas si t'as convaincu Olivier Giraud.
Non, mais je est-ce que je me convainc moi-même? Je n'en sais rien, mais je te dis, il faut trouver des motifs d'espoir parce que sinon, pense qu'il faudra repenser le format de ces tournées qui, lorsqu'elles concerner toutes nos stars, représenter des matchs de prestige. Là, désormais, on est sur des matchs amicaux, des matchs de préparation et je me force à y voir du positif et notamment hier.
Il y a jusqu'à dire au rugby des matchs amicaux. Hein. On disait des tests matchs.
Ça ne se dit pas. Mais hier, voilà, la défense des Français, notamment, m'a fait vibrer. Voilà, et c'est ce que je retiendrai.
Ok.
Olivier. Non, t'es pas d'accord.
Je pense que la France, elle en est plus là dans ses rencontres avec ces All Blacks et surtout ces dernières années, parce que on a montré que sur la formation et surtout sur les prétentions, même si le titre n'est toujours pas là et on pourrait là il y a une vraie déception hein, plus que sur l'équipe de France féminine de foot où on sentait quand même d'élitement, là on y croyait vraiment parce qu'on a les moyens de les battre et on l'a montré. Ça veut dire que les remplaçants étaient là, j'aime pas trop dire les substituts étaient là sur cette tournée, les titulaires les ont battus les Blacks à plate couture et dans des conditions optimales et officielles.
Oui, mais chez nous.
Oui, chez nous. Ah, peut-être.
Ça change tout quand même en rugby, l'avantage du terrain, Olive.
Mais c'est la Coupe du Monde quand même. C'est pas des matchs anodins. Ce sont vraiment des matchs qui comptent. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de se poser, qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces matchs servent, et tu l'as dit en préambule, servent encore à quelque chose? Est-ce que quand on part là-bas avec une équipe B, C, il y a un intérêt même pour les spectateurs français, sans manquer de respect à tous ces très bons joueurs français qui intègrent l'équipe de France? Est-ce qu'on montre aussi un respect à une des équipes les plus emblématiques du monde du rugby que sont les All Blacks?
On participe quand même à un équilibre financier du rugby néo-zélandais. C'est-à-dire qu'on y va là-bas, ça remplit des stades, c'est-à-dire que ça remplit des stades peut-être un petit peu plus petits que ce qu'ils avaient prévu, mais il faut savoir que le rugby n'est pas un
comme
sport mondial,
comme
n'est pas
en
un
Argentine
sport
aussi.
Oui, mais donc le fait
les
de
fédérations ne peuvent pas se passer de
exactement les fédérations ne peuvent pas se passer de ce genre de match qu'on dit amicaux parce que ça fait rentrer de l'argent.
Alors là-dessus, je suis en train de parler juste d'argent.
Exactement.
Mais
est-ce qu'il y a un intérêt sportif quand même?
Pour moi, il y a un intérêt sportif.
Pour les Néo-Zélandais, sans doute. Oui.
Moi qui adore le rugby, je vais pas te mentir, je l'ai regardé, j'ai regardé d'un œil, quoi. Je regardais les résultats, mais j'ai regardé d'un œil. J'y ai pas prêté une attention extraordinaire. Et il faudra que aussi le rugby mondial fasse très attention parce que les calendriers ont changé. Là où ils auraient été tout seuls sur ce calendrier, aujourd'hui, il y a des Coupes du Monde des clubs, il y a des choses qui vont se greffer et qu'il faudra vraiment porter que ça finisse pas comme la Coupe Davis, quoi.
Alison, toi aussi, tu faisais plutôt partie du clan de ceux qui pensent que c'est pas une réussite, quoi. Vraiment, il n'y a pas grand chose à retenir, c'est ça?
Non, c'était pas de. Il n'y a rien du tout à retenir. Je nuance parce que si tu prends que sur le plan comptable, ça fait trois défaites et tu regardes ça d'un œil, tu dis ah bah c'est loupé, c'est raté. Par contre, quand tu regardes beaucoup plus loin, tu regardes les contenus, comme l'a dit Simon, tu regardes les mecs qui émergent. Ce genre de tournée, c'est fait pour ça. C'est pour aussi mettre en avant des jeunes, mettre les cadres, entre guillemets, au repos et de dire, on a besoin de voir des jeunes, de les confronter justement au meilleur niveau pour finalement voir ce qu'ils ont dans le ventre.
Et ça les aide, vraiment?
Oui, moi, je pense que ça aide, ce genre.
En tout cas, ça fait le tri.
Oui, exactement.
Ça fait le tri. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vas jouer au pays du rugby et que tu affrontes ce qui se fait de mieux, c'est formateur et ça fait il y a un phénomène d'entonnoir. T'as ceux qui vont se révéler parce que on touche ce qui se fait de mieux et puis ceux finalement qui ce fameux plafond de verre et de se dire donc sur le plan comptable,
alors ça aide à faire
formateur.
Le tri pour Fabien Galthié, c'est ce que t'es en train de dire.
En tout cas, c'est formateur.
Ouais.
C'est extrêmement formateur. C'est comme quand tu dis, et on en parle souvent avec les judokas, quand ils te disent on va faire des stages au Japon. Mais tu vas dans la Mecque de ton sport où tu vas affronter ce qui se fait de mieux. Oui, c'est formateur, mais parce qu'on peut pas se contenter. Enfin, le calendrier est ce qu'il est. Donc, soit tu t'apitoies sur ton sort et tu dis de toute manière cette tournée, on peut rien y faire. Et puis tu cries et tu lèves le drapeau rouge systématiquement. Le planning ne va pas, les calendriers ne vont
pas. Ça, c'est ce qu'a dit Fabien Galthié.
Mais oui, mais pas parce qu'il faut bien qu'il se dédouane de quelque chose. Mais je pense qu'il en tire des enseignements aussi. Le staff en tire des enseignements.
Il a parlé de révéler des potentiels.
Formateur.
Les tests au match.
C'est fantastique parce que sur quelque chose de complètement amical, on peut voir aussi la force du rugby. La force du rugby, c'est sans jamais gagner. Ah, sans jamais gagner, c'est-à-dire que la place qu'occupe médiatiquement le rugby sur notre territoire, c'est-à-dire qu'il passe sur des chaînes premium,
il répond peut-être à des problématiques actuelles qui nous conviennent.
Exactement, exactement. Donc la chance qu'a le rugby, c'est d'être visible.
Les tests
d'avoir bien fait.
La tournée d'été, c'est sur une chaîne payante.
C'est une des forces du rugby, c'est d'être toujours présent et qu'en fait ils occupent la place médiatique et l'occupe plutôt bien. Et en fait, on est en train de faire un constat sur quelque chose qui, honnêtement, si on le prend de manière très pragmatique...
Pour toi, on en a trop parlé.
N'a pas le plus grand intérêt du monde. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là où est l'équipe de France, la seule chose qui nous intéresse, c'est comment, en fait, un jour, l'équipe de France va gagner la Coupe du Monde. Les tournées, on peut débattre dessus autant qu'on veut. Pour toi, c'est ça, comment on gagne.
Xavier est avec nous au 32-16 ce matin. Bonjour, Xavier.
Salut les GG.
Salut Xavier. Salut.
Bonjour.
Fan de rugby, j'imagine.
Oui, supporter du Stade
Toulousain. Ah, supporter du Stade Toulousain, connaisseur. Comment tu perçois, toi, cette tournée? Est-ce que tu en retires quand même du positif? Est-ce que tu dis que c'est quand même réussi, malgré tout?
Non, c'est une grande inutile, cette tournée. Parce que les joueurs, on les voit très régulièrement, que ce soit en top 14 ou même en Coupe d'Europe. Ça permet quand même de les étalonner face à des joueurs internationaux. Elles n'ont d'utilité que pour les nations du Sud qui, contrairement à nous, sont obligées d'avoir des contrats avec leurs internationaux, parce que c'est elles en fait qui les font vivre, hein, c'est pas les clubs. Et du coup, s'ils n'ont pas ce genre de tournée, ils peuvent pas proposer de rugby dans leur stade et essayer d'avoir un peu d'argent. Donc nous, on y va parce que comme c'est un sport de toute façon qu'on joue à 8 nations, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est pas un sport mondial le rugby. Il est mondial parce que les nations sont un peu disséminées, mais quand on ne joue qu'à 8 au très haut niveau, c'est un petit peu petit, quoi. J'ai envie de vous dire, pour un sport mondial. Et du coup, on est obligé un petit peu tous de s'entraîner. Mais pour nos joueurs, ça n'a aucun intérêt. Pour le grand public français qui n'est pas spécialiste, ça n'a aucun intérêt. Et pour quelqu'un qui, comme moi, le suit, ça me confirme que certains joueurs, je trouvais qu'ils n'avaient pas le niveau, et ils ne l'ont toujours pas après cette tournée. Je prends Léo Barré, par exemple, je prends Antoine Astoy. C'est des joueurs qui, pour moi, n'ont rien à faire en équipe de France, et ça l'a confirmé avec cette tournée.
Alors, si même un fan de rugby nous dit ça, c'est vrai que forcément, on peut se poser la question de ces tournées. Et je vous invite.
D'accord, quand c'est moi, pas un fan de rugby, ça ne compte pas, d'accord.
Non, mais c'est encore plus fort.
Non, voilà. tu es fan de rugby, on estime que tu es un spécialiste.
C'est ce que j'ai envie de dire. Bon, Xavier, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Et puis, à très bientôt. Il a cité que des joueurs qui n'étaient pas au Stade Toulousain. Vous avez vu qu'il n'avait pas le niveau de l'équipe de France. Hein. Il est malin, Xavier, évidemment. Merci beaucoup et on reparlera. Et je vous invite à écouter Fabien Galthié, d'ailleurs, sur mcsport.fr, à retrouver ce dont Simon voulait nous parler tout à l'heure dans sa contre-attaque, cette mise au point quand même de Fabien Galthié, dont on pourra reparler sur les calendriers difficiles et infernaux, même pour les joueurs français avec le top 14.
Enfin, mise au point, si on comprenait vraiment où le sélectionneur veut en venir, d'accord.
Mais on comprend qu'il râle un peu quoi, sur le calendrier.
Oui, qu'il faut changer, mais ça fait 20 ans qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas, donc c'est compliqué.
Bon, allez, dans un instant, le débat de nos GG sur les tirs au but après la séance d'hier. Perdre au tir au but, ça a l'air d'être un mal français. Est-ce que c'est votre avis? On en parle dans un instant et on vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Encore un quart d'heure à peu près à passer ensemble dans les grandes gueules du sport ce matin. Merci beaucoup de nous écouter et bravo à ceux qui nous écoutent depuis 9h. Pour les autres, pas de problème, il y a le podcast à retrouver avec Olivier Giraud, Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Alison Pinault en grande forme ce matin. On va revenir avec vous sur l'élimination des Bleus hier et plus spécifiquement sur cette nouvelle séance de tir au but perdue par les filles. C'était hier, on s'en souvient, en direct sur RMC.
Elle pose son ballon, la jeune défenseur centrale. Allez, c'est un grand défi pour toi, Alice, face à Anne-Catherine Berger, la portière de Gotham, du club américain, la franchise américaine. Allez, ça sera du droit, évidemment, pour Alice Sambat. C'est parti, il faut marquer absolument. L'arrêt!
Non,
sur sa gauche d'Anne-Catherine Berger! qui envoie et qui renvoie à la maison l'équipe de France qui encore une fois est éliminée en quart de finale de l'Euro.
Ah, il y avait le non de Paul Le Guen lors de la remontada. Maintenant, il y a le non de Simon Dutin hier soir en direct sur RMC. Bravo Simon. Après l'Euro 2009.
On pense fort à Anthony Reich qui, qui a trouvé une petite boîte de pastilles. Ouais.
Après l'Euro 2009, après l'Euro 2013, après le Mondial 2015 et le Mondial 2023, c'est donc une nouvelle désillusion au tir au but pour les filles de l'équipe de France. Alors si on élargit aux garçons, et ils avaient connu aussi des mésaventures similaires lors des tirs au but, qu'ils ont plus ou moins en tout cas brisé cette malédiction lors de la Ligue des Nations avec cette qualification au tir au but face au Portugal, cette victoire face au Portugal. Alors les GG, est-ce que les tirs au but, c'est vraiment un mal français, à votre avis? Oui ou non? Simon Dutin.
Non.
Alison Pinault.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Alors, je vais dire non.
Olivier Giraud.
Ça l'a été.
Ah, ça l'est plus? Quand t'as vu la séance hier, quand même.
Oui, mais beaucoup moins, parce que là, tu nous parles de manière générale. On a quand même passé des cuts, là.
Ah oui? Ouais. D'accord, tu trouves. Okay.
Ouais.
Alison, toi, tu penses que oui?
Oui, un petit peu. C'est mental, tu sais. Moi, j'adore ce moment à chaque fois. Donc, t'as les pénaux, j'ai de 7 mètres pour le hand. C'est vraiment un moment particulier. Ça joue vraiment au mental. Et dès que la gardienne, elle commence à prendre cet ascendant psychologique, ça peut être très, très difficile derrière. On a perdu plusieurs fois, quand même, avec l'équipe de France au pénalty. Donc, c'est compliqué. Est-ce que c'est un mal français? En tout cas, on entend souvent parler de cette fameuse loterie. Moi, j'estime que c'est pas une loterie.
C'est-à-dire que c'est quoi, c'est pas, t'estimes que c'est pas du hasard, que c'est du travail?
Ouais, moi j'estime que c'est pas du hasard. Si une nana elle se présente et qu'elle s'entraîne pas, bah ouais, peut-être une fois elle va marquer, mais puis toutes les autres fois
elle va passer à côté. Ouais.
Alors, ça ne veut pas dire qu'elles se sont pas entraînées hein, sur les tirs au but. D'ailleurs, faudrait qu'on demande à Laurent Bonadéi, mais pour toi, Simon,
c'est ce qu'il a dit.
Ah bon,
bah, j'ai lu, on disait qu'il n'aurait pas trop pris la tête sur les pénalties. Bah,
c'est pour ça qu'on parle de mal français, parce que c'est exactement le même discours que Didier Deschamps. Vous vous souvenez,
donc ça dépend comment on place la séance des pénalties. Est-ce qu'on estime que c'est quelque chose qui se travaille ou ça fait partie d'une forme d'instinct du sportif?
Ce que disent Didier Deschamps et les autres, c'est on peut pas de toute façon reproduire ce qui se passe en match,
non,
la pression
le stress,
et le même moment.
Tu peux pas reproduire le stress, ça c'est clair. Tu peux pas reproduire le stress.
Et mais le est-ce geste que technique, ça... tu peux peut-être.
Mais même, ça t'empêche pas de t'entraîner.
Alors il y a deux choses. Il y a le tireur. Et on oublie souvent une donnée, et il y a celui qui est en face, le gardien de but. Ouais. Et que pendant très longtemps, la France a travaillé sur les tireurs. Et les tireurs, de toute manière, ils n'attendent pas d'être en équipe de France pour apprendre à tirer des pénaltys. Hein. Ils passent 90% de leur temps, quand même, en club, à jouer toutes les plus grandes compétitions, à se retrouver souvent dans la position de tirer des pénaltys, ouais, que ce soit en Ligue des Champions ou dans d'autres compétitions. Par contre, le mal français, en tout cas, si on parle des garçons, ils l'ont résolu de manière assez rapide. C'est qu'à un moment, tu as des gardiens de but et tu le vois en Ligue des Champions, des Donnarumma, et aujourd'hui la France commence
comme
à se
doter de
cet aspect-là qui peut arriver en compétition, et que si on devait dire sur la grande carrière qu'a fait Lloris, s'il y avait un bémol, c'est que tu savais que si tu arrivais au pénalty, c'était pas le meilleur gardien dans cette situation-là. Donc le mal français, il se résout par lui-même, et tu l'as dit, hein, les pénaltys, tu arrives, c'est entre les joueurs aussi. C'est-à-dire que le coach, il peut plus grand chose. Quand tu arrives au pénalty, il y a une image qu'on ne montre pas. C'est quand il faut y aller, n'importe qui peut y aller s'il en a le courage. Et bah, tu vois très souvent des mecs qui sont des leaders dans la bouche, et bah, qui disparaissent au moment de tirer le pénalty.
Alors, pour revenir sur hier, il y a eu quand même deux images très fortes. Une image très forte, c'est Amel Majri, sa course d'élan. Pour ça, quand même, c'est quand même très, très étonnant.
D'autant qu'elle rentre quasiment en prévision de cette séance de tir au but.
Certainement. Donc là, la course d'élan, quand même, elle est incompréhensible de la part d'Amel Majri. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé, c'est la gourde de la gardienne allemande, où sur sa gourde, on voyait les noms des joueuses françaises avec là où elle tire le plus régulièrement les pénaltys. Donc, il y a eu un vrai travail de fait par le coach allemand avant cette tir au but. On se demande si ça a été fait également pour du côté de Laurent Bonadéi. Simon.
Pardon, c'est une question, faut que je réponde.
Non, je sais pas, tu voulais parler.
Moi, je crois pas qu'il puisse y avoir une malédiction des pays. Autant il y a des équipes. En effet, l'Allemagne est une nation qui statistiquement passe souvent au tir au but. La Croatie, qui a une histoire plus récente, passe souvent au tir au but. L'Espagne est souvent passée au tir au but, l'Italie aussi. Et puis,
on passe souvent.
Oui, mais regarde, moi, la séance dont je me souviens, c'est contre l'Italie en quart de finale du Mondial en 98. Ouais. Et je pense que c'est une question, individuelle. Tu peux travailler si tu veux, mais généralement, les joueurs qui y vont, c'est des joueurs qui ont l'habitude de tirer des pénalties et qui,
Mais du coup, quand tu parles d'habitude.
Des tirs au but. Je veux dire, je pense pas que ça serve à quelque chose de travailler à l'entraînement dans un contexte.
C'est un sport dans le sport.
Ah bon. Je veux dire, ça, tu remplaces pas l'atmosphère, la tension, l'adrénaline.
Non, mais tu peux mettre des situations à ce moment-là. Et ben là, je suis pas tout à fait d'accord. Je vais faire un comparatif avec le tennis et le golf. C'est-à-dire où tu as ce qu'on appelle au service. C'est-à-dire que finalement, c'est un coup qui dépend que de toi quand t'es assise partout ou quand t'es à deux points du match. Où est-ce que tu vas servir? Au golf, c'est la même chose. C'est quel club tu vas prendre quand t'es au 17 ou au 18 ou quand t'es au match play.
Il n'y a pas de gardien en face.
Non, mais c'est ton choix. Il y a un choix que tu dois prendre. C'est-à-dire, il y a un choix que tu dois faire. Mmh. Et le fait de se dire, on peut pas s'entraîner, je pense que oui. Alors, tu peux pas reproduire dans l'exactitude, mais au tennis, on peut travailler en disant, OK, fais comme si t'es à 0,40. Tu te mets dans une situation, t'es à 0,40 et tu commences un jeu en étant à 0,40. Tu n'as pas toute la pression, mais en tout cas, tu t'habitues à jouer dans des situations de jeu. La même chose au golf. Tu vas te positionner et tu vas travailler dans des positions différentes. Je ne comprendrais pas qu'au foot, on n'y ait pas des séances de tir au but en disant, OK, les filles, où tu travailles, tu fais une séance de 2 heures et après tu les mets au tir au but. Dans la fatigue, tirer des tirs au but quand t'as couru pendant près de 120 minutes. Oui, tu peux te mettre dans cette situation-là.
Tu vas t'entraîner, tu vas tirer 200 tirs au but à l'entraînement.
Mais pas 200, non.
Tu vas en mettre 190. Mais alors, du coup, c'est bon pour les joueurs qui vont aller tirer, mais c'est pas bon pour ton gardien parce que tu dis c'est une passoire et si on se retrouve au tir au but, il va pas en sortir un. Souviens-toi, en 2006, la finale de la Coupe du Monde 2006, moi je peux me la refaire, je me souviens très bien, je me disais mais c'est pas possible, Barthez va forcément en sortir une.
Ouais,
j'étais confiant, il va en sortir une, c'est écrit, il va en sortir une. Trezeguet quand il s'avance, je me dis mais Trezeguet, elle est au fond tous les jours, jamais Trezeguet la rattrape. Bon, il se passe des choses, je veux dire, c'est des moments hors du temps qui rendent cet exercice absolument mythique à chaque fois. Tu peux pas, je pense.
Il y a pas de fatalité qui aurait dû tirer.
Oui,
on n'a pas vu
ça
lors de la séance. Ouais. On en a parlé. Alison, un dernier mot.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est la répétition, c'est l'art de la maîtrise. Donc, certes, tu ne peux pas reproduire les conditions, mais tu es obligé de répéter. Sinon, à quoi ça sert qu'on s'entraîne?
Oui, mais elles ont dû en tirer quelques-uns
Du coup, j'ai la sensation que c'est un peu finalement cette histoire de loterie. C'est-à-dire, allez, tu tires quelques pénaux et puis.
Bonnadé avait dit quand même qu'il les avait travaillés, mais bon, voilà, après, une fois que tu es sur le match, tu ne peux pas savoir effectivement ce qui se passe. Et malheureusement, on en restera là sur ce débat, on en restera là sur cette équipe de France dont on a parlé dans ces grandes gueules du sport. Vous pouvez retrouver le podcast. Merci énormément à tous les quatre. Je vous souhaite un bon dimanche.
À toi aussi.
À très bientôt.
Merci.
Dans les grandes gueules du sport. Bravo, Alison, pour ton premier week-end.
Merci.
Félicitations.
Merci.
Tu reviendras.
Avec grand plaisir.
À très bientôt. Merci beaucoup, les grandes gueules du sport, qui reviennent samedi prochain à 9h et tout de suite les paris RMC avec notamment du Tour de France au menu. À tout de suite sur RMC.